Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Plusieurs maisons connaissent des problèmes d'humidité, ce qui rend parfois l'air irrespirable à l'intérieur de la maison. Comment, que faut-il faire pour combattre cette humidité? Nous en parlons avec notre invité Apollinaire Kitenge, qui est architecte. Nous rappelons le numéro de contact si vous avez ce problème, ou bien peut-être vous voulez prévenir l'humidité dans votre maison. Vous pouvez appeler au 081 890 63 94. Apollinaire Kitenge, vous êtes architecte. Est-ce que on peut d'abord savoir qu'est-ce qui est à la base de l'humidité dans une habitation?
Et merci beaucoup, Marcel. La base de l'humidité est de plusieurs ordres et origines également. Mais dorénavant, je pourrais dire qu'on pourra trouver l'humidité dans la maison, soit dans les murs, soit dans les plafonds, soit dans, au niveau du pavement, soit également au niveau de menuiserie. Hein. Voilà, c'est un peu d'origine, mais causé aussi par des pénétrations ou des infiltrations, également par les remontées capillaires des eaux, ou soit un mauvais raccordement de la tuyauterie, soit aussi un mauvais raccordement pour la tuyauterie d'évacuation. Il y a aussi un problème quand vous avez une toiture terrasse, une toiture en dalle ou une toiture en tôle qui a des l'eau qui pénètre et causer aussi des humidités au niveau des murs. Également, on trouve aussi des murs qui sont érigés le long des rivières ou soit là où il y a les dépôts de sable, il y a un ensablement à un certain niveau amené par les eaux de pluie et c'est là aussi remonte les niveaux. À un certain moment, vous voyez si ces eaux-là ne sont pas évacuées, les murs en contact avec la paroi du sable, ça cause aussi des humidités et des infiltrations des eaux au niveau des murs. Voilà.
Voilà, vous avez, j'ai retenu, surtout vous avez parlé des infiltrations des eaux. Et est-ce que cela laisse entendre que avant de construire, il faut tenir compte de tout cela?
Bien sûr, il faudra aussi connaître la nature du sol. Hein. Si vous êtes sur un sol, comme on a tantôt parlé à une émission passée, on a parlé comment construire sur des terrains humides ou marécagés, il faut connaître la nature du sol. Et cette nature du sol, quand vous prenez des échantillons, vous amenez au laboratoire technique de l'Office des routes ou bien des bâtiments civils. Là-bas, on peut vous donner la nature du sol et quel type de fondation, de construction il faut y ériger et quel type de matériaux qu'il faut utiliser à ces genres de situations quand on y rencontre. Voilà.
Alors, dès que ce problème d'humidité se pose, qui l'a conduite à tenir pour éviter que cela se dégrade?
Voilà, c'est comme je disais tantôt. S'il y a une situation qui se présente à des différentes origines, bien sûr, il faudra voir d'où est la source de cette humidité. Comme je vous disais, les murs qui sont érigés le long des cours d'eau ou bien sur un terrain marécagier, il faudra savoir quand on fait la fondation, soit on la surélève, en y impliquant aussi les matériaux ou bien un mortier hydrofige, qui permet au durcissement et qui rend un peu sec le béton ou bien la fondation à laquelle on l'utilise, là au moins on peut lutter. Mais ceux qui sont tout au long de certaines rivières ou bien pas trop loin, on essaie un peu de voir la paroi qui a contact des murs. Et là au moins on essaie de traiter, d'étancher les murs du côté où il est à contact avec l'eau. Alors, si, par exemple, vous avez un pavement où vous avez les remontées des eaux, vous avez un pavement qui, même si vous avez mis les carreaux, vous avez eu les carreaux qui transpirent, oui. Vous avez un permanence de l'eau. Là, il faut faire le décapage de ces carreaux, utiliser un produit hydrofige, en mettant un film en plastique qu'on appelle souvent les screen, ou d'autres utilisent les roofings avant de poser les carreaux. On pose un tamis ou un treillis à maillage métallique à faible épaisseur, et puis on coule un béton léger, et puis on y met des carreaux. Là, vous pouvez lutter un peu pour l'humidité. Mais il y a aussi qui sont causés par un mauvais raccordement des tuyaux. Là, carrément, il faut enlever les tuyaux et chercher l'endroit où il y a la fuite. Voilà.
Et vous avez cité l'humidité, c'est-à-dire qu'en dehors du plafond et du pavement, c'est également au niveau des murs. Est-ce que, au niveau des murs, par exemple, on voit ça dans certaines maisons, avec le temps, il y a de la moisissure, hein, et là, ça devient dangereux, ça laisse entendre qu'on a laissé la situation pourrir.
Bien sûr, ben, quand ça entre au niveau de la toiture, vous savez, il faudra voir quel type de briques ou de blocs on a utilisé. Quand vous avez les tarpingues qui ont des alvéoles qui laissent passer les eaux, parce que la brique est poreuse, hein, qui laisse passer les eaux, et ces eaux-là qui sont entrées dans ces alvéoles des briques, et à travers les mortiers, et les mortiers qui entrent, vous avez la majorité, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du brique. Et à ce moment-là, il faut voir comment étancher la toiture de manière à ce que vous n'avez pas ces infiltrations en permanence au niveau des murs. Et si au moins du mur, c'est au niveau du bas du mur, soit à commencer au niveau de la laine, là au moins il faudra voir la source. Hein, là où l'eau est l'humidité est en train de passer. Si c'est au niveau des parois, on essaie de décaper tout l'enduit, ce qu'on appelle communément le crépissage. On essaie de voir la source des eaux, on y applique un mortier hydrophile. Sous d'autres aspects, on utilise aussi un produit qu'on essaie d'injecter dans les murs avec des appareils qui sont appropriés à cela. Et c'est cette matière qui s'infiltre et ça rend moins poreuse la brique ou bien les matériaux qui ont été utilisés au niveau des murs. Mais car si on a fait des cloisons en coque ou bien en bois, la karma, il faut encore le traiter davantage. Voilà.
Voilà, comment combattre l'humidité dans les maisons? Nous en parlons avec Apollinaire Kitenge, qui est ingénieur architecte. Si vous êtes intéressé par ce sujet, nous rappelons le numéro des contacts. Vous pouvez appeler au 081 890 63 94.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment combattre l'humidité dans les habitations? Apollinaire Kitenge, notre invité, avec lui, on essaye de voir comment lutter contre cela, ou même mieux, comment prévenir l'humidité dans les habitations. Donc, Apollinaire, lorsque vous avez parlé, par exemple, du plafond, il arrivait qu'on se rende compte qu'il y a des fuites d'eau, qui essaye d'altérer les plafonds. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir d'abord un architecte ou bien on peut directement appeler un charpentier pour faire ce travail?
Non, bon, pas nécessairement un architecte pour remédier. C'est-à-dire l'architecte peut faire un constat.
Oui.
Faisant un constat, il peut vous adresser soit à une entreprise qui fait les entretiens, en lui donnant aussi des conseils, quel type de situation est-ce qu'on peut répondre, ou soit l'entreprise qui est appropriée, qui a de l'étanchéité, qui est aussi capable de remédier. Mais pour une toiture qui est assez visible, là on essaie un peu de voir, on peut appeler un charpentier ou un tellier qui peut arranger si c'est pas au niveau des clous, soit au niveau d'une mauvaise orientation des tôles. Hein. Parce que quand on fait une mauvaise orientation des tôles, on laisse des vides, l'eau vient, ça peut facilement pénétrer et à ce moment-là, il faut remédier cette situation. Mais il y a aussi un problème que j'ai oublié de souligner, c'est quand vous avez une tuyauterie d'évacuation ou d'adduction, vous connaissez les PVC, les polyvinyles, quand on utilise, on les comporte pas dans le béton, en utilisant très mal les clous pour le coffrage, des fois on trouve on fout le polyvinyle, et quand on découvre, il y a un trou qui reste, quand il y a des évacuations, soit de la diction, vous avez en permanence de l'eau, si c'est au niveau de, d'une tuyauterie qui est oblique, hein, qui est horizontale plutôt, voilà.
Et là, vous parlez de la tuyauterie. Hein. Alors, pour ce qui est lié aux matériaux de tuyauterie, c'est toujours bon aussi de recourir au conseil ou à l'expertise d'un architecte. C'est bon, ça, non?
Oui, bien sûr, il faut recourir à l'expertise du connaisseur, il faut servir les constructeurs si c'est une jeune construction, mais si c'est un vieux bâtiment où on n'a pas utilisé parfois les matériaux appropriés parce qu'ils n'étaient pas encore fabriqués à ce moment-là, mais là, il y a moyen, par exemple, de voir de quelle manière on peut remédier si c'est au niveau de la tuyauterie. Vous savez, dans les temps, on utilisait les galvanisés, les tuyaux galvanisés, qui, à la longue de l'utilisation, ça diminue l'épaisseur de la conduite, et à la longue, c'est la rouille qui s'est fait visible, et à ce moment-là, s'il y a l'eau en permanence, il y a parfois des fuites d'eau qui peuvent être connues, on les voit aussi même sur certaines de nos routes. De la même manière aussi, cette tuyauterie peut se détériorer au niveau du mur, et c'est pourquoi, actuellement, on utilise d'autres tuyauteries, bon, sans pour autant citer la marque, PPR, mais avec l'épaisseur du tuyau assez suffisante.
Voilà, nous avons déjà un auditeur en ligne, il s'appelle Modeste Mwamba, qui nous appelle du Kananga, dans l'Ikasso Occidental. Vous êtes également intéressé. Nous rappelons le numéro de contact. On est en train de parler des comment combattre l'humidité dans les habitations. N'hésitez pas, appelez-nous au 081-890-6394. Nous nous ferons le plaisir de vous rappeler.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Modeste Mwamba, vous êtes à Kananga, dans l'Ikasso Occidental. Bonjour Modeste.
Bonjour Marcel Ngombo Mbala, bonjour aussi aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est la fréquence de la paix.
On vous écoute Modeste, quelle est votre question?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'ai une question par rapport au sujet du jour. Ici à Kananga, nous savons que depuis l'existence des colonialistes, le Belge bien sûr, savait très bien les conditions de construction, comment respecter cela. Et c'est pour cela qu'ils ne pouvaient même pas construire ou lotir de n'importe quel terrain. Ils avaient même interdit dans certains terrains pour y construire. Mais actuellement, avec la prolifération de gens sur la ville, avec des exodes ruraux, bien sûr, des gens qui quittent le village pour le centre-ville, les gens manquent même de l'auberge de terre dans lesquelles ils peuvent habiter. Aujourd'hui, à Kananga, par exemple, prenons la direction entre Kélékélé et quartier Bianchi au niveau du centre-ville de Kananga. Ces terrains-là n'étaient pas habités, monsieur Marcel. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les gens, ils ont construit de manière anarchique, alors que les architectes existent, ils sont là, ils sont compétents, mais ils n'interviennent pas pour essayer un peu d'éviter les pires. C'est pourquoi je m'en vais poser une question à l'invité, qui est celle de savoir si, par conséquent, on a mis du carreau dans la maison et que l'on se rende compte que l'humidité persiste dans la maison, quelles précautions faut-il prendre par rapport à cela? En deuxième position, je voudrais un peu poser la question, quel type de maison faut-il construire dans un terrain, par exemple, un terrain marécager? Parce que les gens aujourd'hui sont en train de construire même le long des ruissellements, le long des rivières. Comme à Kinshasa, on apprend que les gens ont logé le long des Ndili. Alors, quand il y a inondation, il y a toujours possibilité que l'eau puisse se déverser dans des parcs. Même que l'eau attaque les maisons pour même pénétrer là-dedans afin de créer l'humidité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné qu'on manque des moyens possibles pour acheter du carreau afin de lutter contre l'humidité, dans les cas qu'on venait en train de... Vous êtes en train plutôt de le dire. C'était Modeste Mwamba à Kananga. Je vous remercie.
Merci à vous aussi. Modeste Mwamba, vous êtes bel et bien à Kananga, dans le cas occidental. Jean de Dieu, vous êtes à Kikwi dans le Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur, je m'en disais à notre invité.
On vous écoute, Jean de Dieu.
Merci beaucoup pour l'émission. Je voulais donner la même ligne et contribution et préoccupation. Et ma contribution sera basée sur tout l'équipement du pavement ou bien du carreau parce que notre voisin a failli avoir une facture à cause de toutes ces humidités parce qu'il utilisait seulement du savon à ce moment pour nettoyer la maison. Il y a eu des glissements et subissements, il a failli avoir une facture. Maintenant, ma première préoccupation, je voulais demander à notre invité, à combien de fois on peut torsionner la maison? Est-ce que c'est chaque jour ou bien c'est après, par semaine, c'est combien de fois? Parce que du fait que la maison est utilisée et à torsionner à tout moment, l'humidité ne termine pas. Ma deuxième préoccupation, et quelle est la conséquence de l'humidité dans la maison et surtout ce qui concerne le matériel comme les télévisions, comme d'autres matériels, les ordinateurs, même les appareils téléphoniques, quelle est la conséquence par rapport aux biens de la maison pour l'humidité? Merci beaucoup.
Merci Jean de Dieu d'avoir appelé de Kikwit dans le Bandundu. Apollinaire Kitinga revient à cette question de Modeste qui a demandé lorsque vous avez des carreaux dans la maison mais le problème d'humidité persiste, qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci Martel. Je voudrais dire à ami Modeste que s'il y a l'humidité au carreau, quoi l'avoir épinglé tout au début de notre émission en disant que les carreaux ne remédient pas au problème d'humidité. Les carreaux, c'est juste un pavement où qu'on essaie de mettre pour embellir ou égaliser les sols ou rendre attrayant l'espace. On peut même faire un ciment lissé, mais ça peut toujours être attaqué par l'humidité. Alors, la solution, c'est de traiter l'origine. C'est-à-dire, quand on a construit, il faudra savoir que tout ce terrain-là a été humide avant de mettre le béton de sous-pavement qui va recevoir les carreaux. On essaie de traiter ce béton de sous-pavement à la manière d'utiliser les matériaux nécessaires avec un mortier hydrophile en utilisant aussi ce que j'ai appelé le biscuit ou bien le roofing qui sont des matériaux hydrophiles qui essaie de pencher et de faire arrêter le passage de la remontée capillaire des eaux au niveau de la surface, au niveau du carreau. Voilà, c'est un peu ça. Mais quand il s'agit de quel type de construction qu'il faut mettre sur un terrain marécageux, moi je dirais tout type de construction peut être érigé sur un terrain marécageux. Ça dépend de la destination de cette construction et des moyens qu'on peut avoir pour ériger cette construction. Voilà, il a bien parlé quand les Belges étaient, à notre époque maintenant, qu'il y a les zones rurales, mais vous savez, l'État aussi a la responsabilité de protéger la population. Mais si c'est l'État qui octroie, qui fait le lotissement sur un terrain de ce genre, il faut voir quels sont les types, quel type de personnes des populations qu'on attribue, c'est leur plein de terre. Ont-ils des moyens les moyens de le faire ou n'ont-ils pas des moyens? On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas assez de moyens pour ériger sur un terrain qui, à la longue, peut poser des problèmes. S'il faut répondre à notre ami
Jean de Dieu qui a appelé les Kikwit, oui.
Il faut dire combien de fois qu'il faut torsionner la maison. Bon, je ne serais pas apte à le dire, ça dépend de la fréquentation de sa maison, comment est-ce qu'on l'utilise. Sur d'autres, si on ne torsionne même pas la maison, on utilise les aspirateurs. Et il est aussi déconseillé d'utiliser, de torsionner les carreaux à grosses eaux, avec des mousses qui peuvent détériorer les carreaux. Voilà. Il y a aussi des fois, quand on n'a pas bien étanché ou bien les joints ne sont pas bien fermés, vous avez les infiltrations d'eau dans le carreau. Voilà. Il a parlé des conséquences de l'humidité dans la maison, soit des appareils. D'ailleurs, d'abord, il faut savoir que l'humidité a une conséquence très fâcheuse ou dangereuse pour la santé de l'homme, de la maison. Et vous avez parfois les enfants qui ont des problèmes respiratoires ou bien pulmonaires qui sont causés par de l'humidité. Vous avez aussi cette humidité, pas seulement de l'eau, mais vous avez aussi des tartres ou bien des champignons qui poussent maintenant au niveau des murs et c'est aussi dangereux pour la santé de la personne. Et il faudra aussi, si vous voulez parler à ça, voir voir quel profil de peinture on a utilisé, décaper la peinture et utiliser aussi le matériau hydrophile nécessaire pour mettre à la paroi en contact avec les eaux. Et à l'arrière aussi, ventiler la maison si vous avez des fenêtres à classe. Pas une maison qui fait de fenêtres, comme des papiers duplicataires, ne permettra pas à cette énergie de quitter la pièce et avoir de l'air frais. Voilà. Mais pour ce qui est des appareils, il faut le mettre loin des zones qui sont humides, sinon ça peut endommager certains équipements qui sont appropriés à être au sec.
Apollinaire, vous avez tout à l'heure évoqué, il faut voir aussi le type de peinture à utiliser. Est-ce qu'il y a... Les peintures peuvent aussi jouer un rôle par rapport à l'humidité?
Non, pas du tout. La peinture ne peut pas jouer un rôle de l'humidité. La peinture joue les rôles de... joue les rôles de couvrance. Elle ne peut que couvrir. Ça ne joue aucun rôle. D'ailleurs, l'humidité peut aussi attaquer la peinture et vous avez la peinture qui s'écarquille, qui a des écailles qui fait maintenant. La peinture pas nécessairement ne répond pas, mais on l'utilise comme la matière qui couvre l'espace. Vous voyez, il y a d'autres pièces où, comme des douches ou des salles de bain où on n'a pas mis de la faïence. On utilise de la peinture parce que ça a la capacité de couvrance et quand l'eau tombe, ça ne pénètre pas au niveau des murs. Et ça permet à ruisseler, on peut l'éponger, on peut même utiliser les coffres pour essuyer de l'eau, sans pour autant que ça pénètre au niveau des murs. Voilà.
Eh bien, nous allons prendre notre auditeur, c'est Jean qui nous appelle de Bougnani-Toury. Jean, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, l'invité.
On vous écoute, Jean. Quelle est votre question?
Oui, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une préoccupation en rallye avec la parole de notre invité du jour. Aussi longtemps que vraiment la technologie reste une matière non comprise par beaucoup de gens, cela peut être la cause même de l'humidité dans la maison. Quand beaucoup de gens ne connaissent pas quelle est l'hygiène de la maison et comment parvenir à créer une atmosphère cohérente dans la maison. Alors, dans l'hygiène et confort, il y a le point concernant l'air. Si l'air est exagéré dans la maison, ça peut faire que l'humidité soit aussi d'une façon vraiment désordonnée et puis ça crée de la maladie. Je ne sais pas ce que l'auteur du jour fait me dire à cause de cela.
Voilà, merci Jean d'avoir appelé de Bounia, en Ituri, dans la province orientale. Apollinaire Kitenge, qu'est-ce que vous dites à Jean?
Et Marcel, à Jean, je vous remercie pour faire une préoccupation. Hein. On se dit, je disais tout tantôt là, quand si vous avez des ouvertures assez larges, hein, quand vous les ouvrez, vous pouvez permettre à évacuer l'air vicié, l'air humide qui est dans la maison, et de manière à assécher la pièce. Hein. Ça peut être aussi une solution quand vous n'avez pas tout ce qu'il y a. Mais cela ne résout pas tellement les problèmes, parce que quand vous allez fermer la nuit, vous avez la permanence de l'humidité, et vous aurez aussi ces problèmes. Mais il y a aussi ce qui est assez sur certains humidités. Si les parois sont à une orientation de l'est, c'est-à-dire que quand vous avez le matin le soleil qui s'élève et le soir qui se couche, et ces parois-là sont attaquées par la chaleur, ça peut aussi assécher. Mais du fait qu'on a dit que les parois ou bien les parpaings, les blocs qu'on utilise sont porés, et vous n'avez que l'humidité qui peut sécher à la paroi qui est en contact avec le soleil, mais la paroi qui est en contact, qui est à l'intérieur, et vous avez l'humidité qui est en permanence. Cela peut causer aussi des problèmes. Mais il a parlé d'un problème de technologie. Vous savez, la technologie a tellement été améliorée qu'on ne peut pas avoir peur de l'humidité pour remédier à ce problème. C'est un problème de moyens et l'accessibilité à ces matériaux, à ces équipements pour remédier à ce problème.
Non, Apollinaire, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire que savoir comment orienter sa maison, c'est bon, mais ça ne joue pas vraiment un rôle important par rapport à l'humidité.
Cette orientation, c'est comme je disais, oui. Il y a aussi les problèmes au niveau de la toiture ou au niveau des fenêtres.
Oui.
Si vous les avez orientés, par exemple, ici chez nous, nous orientons nord-sud, nous les orientons l'est-ouest, quand la pluie vient de l'est ou de l'ouest, si vous avez les ouvertures de ce côté-là, vous avez l'eau qui pénètre aussi dans la maison.
Oui.
Si les fenêtres sont bâties fermées ou bien les impostes, soit vous avez les barbacanes ou bien les lucarnes qui ne sont pas étanches, vous avez les eaux qui entrent dans la maison et si vous ne les évacuez pas suffisamment, vous avez de l'humidité aussi.
Et par rapport à l'orientation à Paulina Kitenge, vous qui êtes architecte, c'est également des gens qui construisent et qui recourent à votre expertise pour avoir une idée sur des problèmes d'humidité, sur même aussi comment orienter sa maison.
Oui, le problème d'orientation est crucial. Tout architecte, c'est avant de concevoir, il doit savoir d'abord l'orientation. Ici, chez nous, nous voyons le nord-sud, hein, les aperçus du nord,
oui.
Ou comment positionner des fenêtres. Mais si vous avez une contrainte de positionner des fenêtres par rapport à l'orientation est-ouest, on essaie de faire des devantures pour faire de manière à casser les lignes de la pluie ou les rayons solaires qui puissent être directement dirigés vers la maison. Et d'autres pieds, on essaie d'orienter l'est-ouest parce qu'ils ont besoin du soleil. Par exemple en Europe, mais ici, nous le faisons nord-sud parce qu'il y a moins de pluie et moins de soleil nord-sud. Quand vous le mettez à l'ouest, le soleil se couche. Il y a la paroi du mur qui est attaquée par le soleil et soit la nuit, ça commence à faire le sens contraire. Cette chaleur se transmet par un problème physique. Ça fait vous avez de la chaleur en permanence dans la maison jusqu'à ce que le mur va se refroidir. Et vous voyez, vous revenez le matin avec les maux de tête, avec la scie, ou soit vous avez encore de la chaleur dans la pièce. Voilà.
Alors, Apollida, pour en revenir aux endroits que vous avez cités, hein, qui sont souvent attaqués par l'humidité, le plafond, le mur et les pavements, est-ce que l'un endroit un peu, c'est-à-dire entre ces trois endroits, celui qui paraît un peu plus dangereux par rapport aux autres, où il faut vite réagir lorsque vous avez déjà des problèmes d'humidité à cet endroit?
Bien sûr, je vous ai dit, par exemple, pour les maisons qui ont des tuyauteries, vous avez ce cas, il faut chercher vite la cause et chercher à quel endroit où il y a des puits d'eau. Je vous dirais aussi, comme on a parlé de la technologie qui est évoluée, moi j'ai vu en dehors de notre pays, dans la tuyauterie, on essaie d'injecter un produit qui étanche des fois même, on appelle des pipelines, qui essaie d'étancher de la tuyauterie. Bon, je ne sais pas si on en a ici pour les utiliser, ça dépend aussi de la grosseur de la tuyauterie, de l'épaisseur ou bien de l'ouverture. Mais ces endroits-là, on peut les étancher soit au niveau des raccordements de la tuyauterie, et si, par exemple, c'est au niveau des sanitaires, vous savez, on utilise parfois des WC ou bien des douches à bac. Si c'est un métal, vous avez qui est rouillé, vous avez les eaux qui entrent maintenant en dessous de ce bac à douche, vous avez des eaux, carrément, il faut enlever ce bac et remplacer par un autre. Si ce sont les carreaux, par les joints qui ne sont pas bien étanches, il faut bien couvrir ces joints-là de manière à utiliser aussi un mortier approprié. Mais si c'est au niveau des murs, avec des remontées capillaires, là, ça devient un problème sérieux qui demande des techniques assez appropriées pour les rendre. Je disais, sur les parois des murs, vous pouvez décaper l'enduit qui est là, et en utilisant les produits drop-feed au niveau du mortier, sans pour autant citer le nom du produit, vous appliquez à cette surface et ça peut aussi étancher. Mais si la remontée est au niveau du sol, vous aurez toujours la permanence de l'humidité. Il faut traiter les problèmes au niveau du sol, soit au niveau de la fondation. Comme je disais tantôt, on peut aussi injecter un produit qui entre dans les orifices, dans les pores de mortier avec lesquels on a utilisé le béton pour remédier à ce problème. On ne peut pas voir tout parce que l'autre fois, tantôt, je disais qu'il y a des ponts qui sont construits sous eau. Ce n'est pas dit que ce problème-là remonte jusqu'au niveau du tablier. Non, on essaie d'utiliser les matériaux appropriés pour ça. Vous avez les bâtiments de l'ONATRA au niveau du bon marché, c'est un exemple. Il y a ceux qui construisent sur les fondations sur pied. Il y a aussi ceux qui ont utilisé des fondations radio-générales ou bien en mettant des ronds green qui pratiquement ont une barrière en utilisant aussi un produit qui coupe, la remontée des eaux. Voilà.
Voilà, on va prendre Jean qui nous appelle de Bounia, en province orientale. Jean, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, l'invité.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais juste poser la question à ce jour. Quand il nous parle des problèmes de l'humidité dans nos maisons, surtout dans des milliers de kilomètres, dans des villages, beaucoup de gens ne savent pas quelle peut être, disons, la source même de l'humidité dans la maison. Si vraiment beaucoup de personnes sont devenues des architectes, alors que
on n'a pas cette disons, capacité-là de maintenir toutes les conditions avant la construction. Est-ce que notre invité peut nous donner vraiment quels sont les moyens ou bien les mesures de précaution à prendre pour arriver à anéantir ces systèmes de l'humidité dans la maison une fois les, beaucoup de personnes restent ignorantes?
Voilà. Merci Jean d'avoir appelé de Bounia, Nitouri. Emmanuel, vous êtes à Bukavu dans le sud Kivu. Bonjour Emmanuel.
Oui, alors bonjour.
On vous écoute Emmanuel.
Je dis bonjour à vous et à l'invité.
Oui, bonjour Emmanuel, vous écoute maintenant, oui.
J'ai une question concernant l'émission qui parle de l'humidité dans nos maisons. La première question, je voulais savoir, si une fois on constate que l'humidité est déjà dans la maison, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour la finir? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je voulais savoir si les gens qui construisent aussi des maisons sur les collines peuvent être exposés aussi à l'humidité dans leur maison. Et si tel est le cas, est-ce que ces gens aussi peuvent être exposés comme des gens qui construisent les maisons dans les marécages?
Merci Emmanuel d'avoir appelé de Bukavu dans le sud Kivu. Apollinaire Kitengi, vous avez suivi tour à tour Jean qui a appelé de Bounia et Emmanuel qui est à Bukavu. Alors Jean a demandé si au niveau des villages et les maisons connaissent également des problèmes d'humidité. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ne savent pas?
Merci beaucoup Marcel pour la préoccupation des gens. Je crois que ce problème ne se pose pas seulement au village, M. Jean. Le problème se pose même ici à Kinshasa, bon, notre agglomération. Moi, je n'appelais pas la ville. Ça se pose avec acuité ici à Kinshasa. Je crois que notre ami qui a intervenu auparavant, mon guette, il a parlé à l'époque coloniale. On n'autorisait pas aux gens de construire n'importe quel terrain, pourquoi on parlait de le terrain non édificant, c'est-à-dire on ne pouvait pas autoriser à construire sur un terrain à problème. Vous voyez les rivières qui sont en Vili ou bien au niveau de Kingaboa, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, et c'est actuellement qu'on a ordonné un permis de construction à une grande société qui a conçu, qui a aspergé les sables en faisant une pratique générale. Peut-être les gens ne connaissent pas ça. Au niveau du village, on peut s'en prendre peut-être à l'autorité qui a octroyé ce genre de choses, mais il faut éviter d'aller construire sur les zones marécageuses ou aux endroits où vous avez de l'eau en permanence. C'est question d'avoir cette protection. Malheureusement, nos villages n'avaient pas de techniciens appropriés pour prodiguer des conseils et à ce genre de choses. Pour notre ami Emmanuel, je dirais que les problèmes d'humidité, ce n'est pas seulement un problème de milieu reculé ou ailleurs, comme je disais, même en ville on le trouve, mais pour ceux qui ont conçu au niveau des collines, peuvent aussi connaître les problèmes d'humidité. De quelle façon, si on n'irrigue pas les eaux qui quittent la colline, qui va vers les bassins versants, avec beaucoup de précautions, vous aurez peut-être le sable ou la terre ou la boue qui vont s'agglutiner au niveau des parois des murs. Alors, ces murs-là qui sont exposés peuvent retenir les eaux. Et au fil des jours, avant que ces eaux-là qui sont dans la boue ou bien dans les sables sèches, ça cherchera aussi à aller dans le sens où se trouve un mur. Alors, le mur là fait presque un blocage pour à la direction des eaux, et le mur va commencer à être imbibé de ces eaux, et ça peut produire les humidités dans les mines. Donc, ils peuvent connaître les mêmes problèmes. Oui. Voilà.
Donc voilà, on retient donc qu'il est important avant de construire, en tout cas de voir un architecte hein, qui peut vous donner des conseils. Mais si vous êtes déjà confronté au problème d'humidité, il faut rapidement chercher la cause de cette humidité, ne pas laisser la situation pourrir au risque de connaître vraiment des dégâts. Merci beaucoup à Apollinaire Kitengi. Nous rappelons que vous êtes architecte, vous étiez notre invité pour parler de comment combattre l'humidité dans les habitations. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup Marcel.